VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, nouveau bilan du naufrage de dimanche.
Au Tchad, 11 personnes ont été tuées dans des combats entre éleveurs, nomades et cultivateurs.
Au Mali, levée des barrages hier après un accord sur la réfection d'une route nationale.
Au Niger, nouvelle grève des employés d'Orange en quête d'un repreneur.
Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe met en garde contre un excès de dette en Afrique, où la Chine accroît son influence.
Brexit, colère en Grande-Bretagne après la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement.
Ici aux États-Unis, l'ouragan Dorian épargne relativement Porto Rico, la Floride menacée.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, selon un nouveau bilan donné par la radio nationale, au moins 17 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau qui a chaviré dimanche. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
14 corps ont été repêchés mardi près de la péninsule de Bakassi, dans le sud-ouest du pays, a précisé la CRTV, la radio-télévision nationale. Au total, 111 survivants ont été secourus. Un bilan confirmé par les autorités locales, les recherches pour retrouver d'autres survivants ou extraire de nouveaux corps du navire retourné se sont poursuivies toute la journée d'hier. Prévu pour le transport de 75 personnes, le bateau était surchargé selon un communiqué du ministère de la Défense. Selon certains témoignages, il aurait transporté près de 200 passagers. L'incertitude demeure sur le nombre de personnes encore portées disparues. Le navire était parti dimanche de Calabar au Nigeria et devait accoster à Tiko, dans le sud-ouest du Cameroun. Selon le ministère de la Défense, le bateau en surcharge aurait heurté un banc de sable avant de se retourner. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les causes exactes de ce naufrage.
Au Tchad, 11 personnes ont été tuées dans des combats entre éleveurs nomades et cultivateurs dans le sud du pays, où ces conflits entre ces communautés dégénèrent souvent en violence meurtrière. C'est ce qu'a annoncé hier à l'AFP le gouverneur de la région, Jean-Roger Bion.
Les animaux d'un éleveur ont dévasté un champ, ce qui a déclenché les hostilités lundi, a précisé le gouverneur du Moyen-Chari, Abadi Sahir, dans un entretien téléphonique. Ces affrontements entre communautés avaient conduit le président Idriss Déby Itno à décréter l'état d'urgence le 18 août dans deux provinces de l'est du pays. Les combats se sont déroulés lundi dans le canton de Kumogo, de cette province du Moyen-Chari, faisant 2 morts dans le camp des éleveurs et 8 chez les cultivateurs, puis un éleveur décédé à l'hôpital mercredi, a détaillé le gouverneur Sahir. Ce bilan et les circonstances de l'affrontement ont été confirmés à l'AFP par un chef traditionnel local qui a requis l'anonymat. Selon lui, un éleveur a été tué après la destruction du champ par les animaux et les nomades ont attaqué en représailles avec des armes à feu, tuant 8 personnes dans le camp rival. Les forces de l'ordre se sont déployées pour amener le calme, selon le chef traditionnel. J'ai réglé le problème et amené les deux communautés à se parler, a assuré pour sa part le gouverneur Sahir. Ces situations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs se retrouvent dans plusieurs autres pays africains, notamment au Nigeria ou en Centrafrique.
Au Niger, les employés d'Orange ont entamé hier une grève de 4 jours pour réclamer des négociations salariales et débattre de l'avenir de la filiale nigérienne de l'entreprise française en quête d'un repreneur. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source syndicale. Les 20 et 21 août derniers, ces mêmes employés avaient observé un arrêt de travail de 2 jours pour les mêmes revendications. Nous n'avons pas obtenu satisfaction, alors nous lançons ce mercredi une grève sur 4 jours. Pour mettre la pression sur notre employeur qui refuse de négocier, a affirmé Ali Hachimou, un délégué du personnel d'Orange Niger.
Au Mali, les barrages routiers installés pendant 4 jours sur l'une des principales routes nationales du pays à la sortie de Bamako ont été levés hier après l'engagement des autorités de procéder rapidement à sa réfection, selon l'AFP. Les manifestations de protestation contre le mauvais état des routes avaient commencé le 23 août à Kayes, ville de l'ouest du pays. Le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, Ibrahima Abdulli, avait annoncé la veille un accord avec le collectif Sirako, ce qui concerne la route en langue bambara, à l'origine de ce mouvement de protestation.
Le premier ministre japonais Shinzo Abe a mis jeudi en garde l'Afrique contre des niveaux excessifs d'endettement. Il s'agit là d'une allusion aux importants investissements chinois sur le continent que certains accusent de fragiliser les finances d'États émergents. Monsieur Abe intervenait devant des dirigeants africains conviés à la TICAD, conférence internationale sur le développement du continent organisée à Yokohama. Le Premier ministre japonais en a profité pour faire la promotion de dispositifs de financement et d'assurance d'institutions de son pays soutenus par le gouvernement et qui privilégient, selon lui, des investissements de qualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Grande-Bretagne, vague d'indignation et manifestations à travers le pays après la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines seulement avant la date du Brexit. Une pétition contre cette mesure a recueilli ce jeudi plus d'un million de signatures. La livre sterling a chuté de 0,6% face à l'euro et au dollar après l'annonce de M. Johnson, qui a renforcé l'hypothèse d'un no deal faisant craindre des pénuries et le rétablissement de droits de douane. Boris Johnson soutient pour sa part que le calendrier fixé laissera amplement le temps aux députés de débattre de l'UE et du Brexit.
Ici à Washington, le commandement spatial américain sera officiellement lancé aujourd'hui lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Des détails avec Bagassi Koura.
Le lancement se fera en présence du président américain Donald Trump et de son vice-président Mike Pence. Le Space Command, commandement spatial, accélérera les efforts déployés depuis des décennies pour réorganiser et améliorer les capacités technologiques de l'armée américaine dans l'espace. Les États-Unis dépendent de plus en plus de satellites en orbite qui fournissent des services de communication, de navigation, de renseignement et autres. D'une importance vitale pour l'armée et l'économie nationale, ils sont pour l'heure difficiles à protéger selon le Pentagone. Le Space Command est chargé de dissuader les conflits, de défendre la liberté d'action dans l'espace, d'intégrer des forces conjointes dans l'espace et de fournir des capacités spatiales adaptées au combat. Ces capacités incluent la communication par satellite, la navigation, l'alerte de missiles, la surveillance de l'environnement et le renseignement militaire, la surveillance et la reconnaissance. L'armée américaine avait auparavant un commandement spatial, mais celui-ci a été dissous en 2002 et ses fonctions ont été confiées à un commandement stratégique américain réorganisé. La mission principale de ce nouveau commandement reste la dissuasion contre les menaces mondiales, y compris par le maintien de l'arsenal nucléaire de l'armée américaine.
Les États-Unis ont démenti hier, tout comme l'Iran, qu'ils cherchent à exacerber les tensions entre les deux pays. « Nous ne cherchons pas le conflit avec l'Iran », a dit au Pentagone le ministre américain de la Défense, Mark Esper. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, a déclaré lors d'une visite au Japon pour des entretiens avec le premier ministre Shinzo Abe que Téhéran ne voulait pas intensifier ses désaccords avec Washington.
Retour sur l'état d'alerte dans la bande de Gaza, dirigée par le mouvement islamiste Hamas. Elle a été déclarée après des attentats suicides qui ont tué 3 policiers palestiniens. Ils sont les premiers, en plus de 2 ans, tués dans l'enclave sous blocus israélien. Précision d'Irénée Herman Umbo.
Après avoir évoqué des explosions puis des attaques à la bombe survenues dans la nuit de mardi à mercredi, le Hamas a indiqué qu'il s'agissait d'attentats suicides. 2 policiers palestiniens ont été tués et 1 autre personne blessée dans le quartier de Tal Alawa, selon le ministère de l'Intérieur de Gaza. Dans une deuxième attaque, 1 policier palestinien a été tué et 2 personnes blessées. Le porte-parole du ministère Yab Al-Bozm a affirmé hier soir que les services de renseignement locaux ont identifié 2 hommes qui se sont fait exploser à 2 checkpoints de la police à Gaza. Il n'a pas révélé l'identité des 2 assaillants, mais a rassuré que l'enquête se poursuivait pour déterminer ce qui se cache derrière ces attaques. Selon des témoins, il s'agit de 2 attentats perpétrés par des kamikazes en moto. Une source proche de l'enquête soupçonne les salafistes, terme utilisé par le Hamas pour décrire des groupuscules radicaux qui contestent son autorité et s'inspirent de l'organisation État islamique.
L'île de Porto Rico a été relativement épargnée mercredi par l'ouragan Dorian qui devrait se renforcer avant de toucher ce week-end la Floride où l'état d'urgence a été déclaré.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'Ouganda renonce à un projet de barrage hydroélectrique à proximité des chutes Murchison au parc national. Le gouvernement estime que ce projet hydroélectrique sur le Nil Victoria affecterait le paysage, l'écosystème et en conséquence le tourisme qui attire plus de 100 000 touristes chaque année. Le projet pourra être réalisé ailleurs en dehors du parc. Des défenseurs de l'environnement et de nombreux acteurs du secteur du tourisme s'étaient d'ailleurs déjà opposés à ce projet. Le groupe italien Eni annonce la découverte d'un important gisement pétrolier et gazier dans le delta du Niger au sud du Nigeria. Selon les premières estimations, ce nouveau gisement renferme 1 000 milliards de pieds cubes de gaz et 60 millions de barils de pétrole et peut être opérationnel immédiatement. Il a une capacité de production quotidienne de 100 millions de pieds cubes de gaz et 3 000 barils de pétrole. Le Nigeria, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, voudrait porter sa production à 4 millions de barils par jour au lieu des 2 millions actuels. Pour finir, des experts de l'ONU sont arrivés à Djibouti pour enfin mener bientôt une mission d'inspection du navire pétrolier Safer, resté sans maintenance près du Yémen pendant 4 ans. Le Safer contient environ 1,1 million de barils de pétrole. Le bateau n'ayant pas fait l'objet d'une maintenance depuis 2015, une fuite de pétrole est probable et pourrait provoquer une catastrophe environnementale et humanitaire, ainsi que des pertes économiques considérables.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Trois candidats pour le fauteuil de président de la Fédération malienne de football.
Oui, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'élection à la FEMAFOOT. Le scrutin, attendu depuis près de 5 ans, devrait permettre au football malien de tourner une page douloureuse de son histoire. L'expression clé de cette campagne est la réconciliation de la famille du football qui traverse une crise depuis des années. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous présente les trois candidats et les enjeux de cette élection.
Les trois candidats sont Alassane Souleymane, Mamadou Touré Dibavieux et Salaha Babi. Et en tout, ils seront 62 votants pour départager les trois prétendants pour le fauteuil. Les messages de campagne sont presque les mêmes. Et le point commun chez tous les candidats, c'est bien sûr celui de la réconciliation des acteurs du football malien. L'harmonisation des textes qui régissent la Fédération malienne de football, la redynamisation de la direction technique, la mise en place d'une ligue professionnelle, la recherche des sponsors, le développement du football féminin, la multiplication des infrastructures sont également entre autres points évoqués par les candidats au cours de cette campagne. Si le nouveau comité exécutif tant attendu est élu ce jeudi 29 août 2019, ce sera d'une part la fin du mandat du comité de normalisation installé le 10 janvier 2018 par la FIFA et d'autre part la fin annoncée d'une crise dont le football malien a souffert pendant presque 5 ans. Une crise qui a eu pour conséquence la suspension du championnat malien pendant presque 2 ans. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Clarisse Agbenyenou s'est offert une 4e étoile aux mondiaux de judo.
À 26 ans, cette athlète d'origine togolaise est devenue la première judoka française sacrée 4 fois championne du monde. Elle a réussi ce 4e pari à Tokyo au bout d'un combat acharné de plus de 11 minutes face à la japonaise Miku Tashiro. À un an des JO 2020 dans la capitale japonaise, déjà couronnée en 2014, 2017 et 2018, Clarisse Agbenyenou dépasse désormais le trio tricolore composé de Lucie Décosse, Gévris Eman et Brigitte Dédier, titrée elle à 3 reprises. Elle rejoint le poids lourd David Douillet, lui aussi sacré 4 fois, entre 1993 et 1997. Seul l'incontournable Teddy Runner caracole loin devant avec ses 6 titres de champion du monde conquis entre 2007 et 2017.
Monder Kebayer est le nouveau sélectionneur de la Tunisie.
Après des contacts infructueux avec Radi Jaidi, Sami Trabelsi et Nabil Mahlouli, le bureau fédéral a porté son choix sur un autre technicien tunisien. Monder Kebayer a été nommé en remplacement du français Alain Giresse. Il a signé un contrat de 3 ans. Âgé de 49 ans, Kebayer va connaître sa toute première expérience à la tête d'une sélection. Il a par le passé entraîné des clubs locaux, dont le club africain et l'Espérance sportive de Tunis. Son prédécesseur a passé moins d'un an à la tête des Aigles de Carthage. Les deux parties se sont séparées la semaine dernière à l'amiable.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous l'avons dit cette semaine, des milliers de personnes quittent les régions anglophones du Cameroun, certaines craignant une escalade de la violence après que les séparatistes ont appelé à des journées de blocage. Un appel qui suscite des mouvements migratoires au sein de la population vers les autres villes du pays. Davantage de détails avec Blanche Sanou.
En presque deux ans, le conflit qui voit les séparatistes se battre pour la création d'un État indépendant dans l'ouest du Cameroun a contraint plus de 500 000 personnes à fuir leur domicile, comme le témoigne Catherine Nyankwe, femme au foyer, et Ernest Okotiembui, ferrailleur à Bamenda.
Nous venons d'apprendre qu'il y aura un verrouillage alors que les enfants doivent aller à l'école. C'est pourquoi nous nous déplaçons pour que les enfants puissent fréquenter des classes.
Ce qui me pousse à partir, c'est le blocage qui apporte. Nous savons que la ville ne sera pas aussi sereine. Alors je vais à Bafoussam pour y rester peut-être un moment avant de revenir.
Les anglophones représentent environ un cinquième des 24 millions d'habitants que compte le Cameroun, majoritairement francophone. Concentrés dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont été intégrés à l'État francophone après la fin de l'ère coloniale en Afrique il y a six décennies. Mais la cohabitation se complique davantage car les anglophones s'offusquent depuis des années de la discrimination perçue en matière d'éducation, de droits et d'opportunités économiques. Suivons les témoignages de Bakouan Yvonne, fonctionnaire à Bengui, et Elisabeth Nkouin, professeur.
En raison de la crise anglophone, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Nous devons donc nous rendre à Douala ou à Yaoundé pour les envoyer à l'école. C'est donc le défi auquel nous sommes confrontés entre les deux régions anglophones.
Pendant que je suis debout ici, je ne sais même pas où je vais passer la nuit. Je vais à Yaoundé pour voir mon frère qui est là-bas. Je vais laisser mes enfants avec mon frère.
Un tribunal militaire camerounais a condamné mardi à la peine capitale Julius Sissoko Ayub Tabe, chef de mouvement séparatiste anglophone du pays. Un geste qui, selon les analystes, pourrait enflammer davantage la révolte vieille de 22 mois.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Fin de la grève des camionneurs du Mali où mardi plus de 1000 camions chargés de marchandises étaient bloqués à l'entrée de la capitale Bamako. Cela faisait 5 jours que les chauffeurs protestaient contre le mauvais état des routes dans le pays. Et Kiabadou a joint à Kaï Ibrahim Sori Diabakite, analyste sociopolitique.
Comme l'état de la route là s'est considérablement dégradé, il y a toujours des accidents sur cette route. Donc les jeunes de Kati ont mis un mouvement en place dénommé mouvement Sirako. Ils avaient fait déjà une première opération de escargot. Le gouvernement avait pris des engagements pour dire qu'ils allaient réparer cette route et que le financement était déjà acquis. Bon, le fait d'annonce a emporté sur l'essentiel. Les travaux ont commencé et quelques mois seulement après, les travaux se sont arrêtés. Brusquement, donc le ministre du département concerné a été interpellé et à l'Assemblée, elle a affirmé très clairement que le financement est bouclé et que le blocage est expliqué par juste un petit problème de décaissement.
Ce problème de décaissement a duré combien de temps?
On est en train d'aller vers le 8e ou le 9e mois, pour être précis. C'est ce qui a exaspéré la population, pas seulement à Kati, mais la population de Kati, la population de Djeni, Kolokani, jusqu'à Kai. Parce que Kai, on a bloqué le pont là-bas et à Kati, c'est l'entrée de la ville de Kati qui a été bloquée. Donc aucun véhicule de transport ne pouvait passer. Et même les véhicules personnels. Mais après, il y a eu un allègement de la mesure où on laissait passer les motocyclistes et les véhicules personnels. C'est l'exaspération qui a poussé les jeunes à se radicaliser et à mettre des barricades.
Quels sont les risques avec les barricades pour les personnes qui sont en train de se mobiliser? Qu'est-ce qu'elles encourent?
Alors pour moi, ils ne risquent rien, à part les pressions qu'on essaie de leur faire ça et là. C'est une mobilisation populaire qui concerne l'ensemble du pays. Cette route est l'une des pistes de ravitaillement du pays et que pratiquement les recettes générées par cette route sont supérieures à toutes les autres groupes nationales au Mali. C'est l'une des sites de ravitaillement, en tout cas, qui contribue beaucoup à la caisse même de l'État. C'est le directeur de la SE, la sécurité d'État, qui est rentré dans la banque. Eux, ils se sont impliqués dans la chose parce qu'ils ont senti que la sécurité de l'État était en cause. Il y a un camp militaire là-bas. Pratiquement dans toutes les familles de Kati, il y a au moins un militaire ou un porteur d'uniforme. Donc, c'est très dangereux. Naturellement, il n'est pas compétent pour agir ici. Le compromis qui a été trouvé, c'est que les jeunes avaient demandé que le Premier ministre leur donne une date qui peut leur assurer que les travaux vont redémarrer pour qu'ils puissent lever les barrières. Cela n'a pas été, mais avec le directeur de la SEE, dit que les travaux vont redémarrer dans 3 semaines. Il a donné sa parole, il s'est engagé. Si les jeunes ne sont pas satisfaits dans 3 semaines, alors lui ne pourra pas les empêcher de faire ce qu'ils entendent faire.
L'analyste sociopolitique Ibrahim Sori Diabakite.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Sénégal, la mauvaise qualité de l'eau, une réalité qui persiste dans certaines zones du pays. Les populations de Koki, un village situé dans la région de Louga, crient leur ras-le-bol face à la salinité de l'eau qui affecte leur quotidien. Elles se sentent aussi lésées par les autorités administratives. L'eau salée, la hantise des habitants de Koki, avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Salée comme l'eau de la mer, parfois remplie de poussière, la mauvaise qualité de l'eau est le problème le mieux partagé par les habitants de Koki, une localité située dans la région de Louga, à 225 km au nord-est de Dakar. Amadou Matarmbou, président de l'association des usagers du forage de Koki, estime que la qualité de l'eau est catastrophique.
L'eau est suffisante actuellement, mais pour la consommation, il y a des problèmes. La première démarche qu'on avait effectuée, c'était de contacter le service d'hygiène, le service de la protection civile, mais quand ils ont fait des traitements, ils se sont rendus compte que la qualité de l'eau est 7 fois en deçà des normes de consommation.
Trouvée en train de cuisiner, cette dame qui a requis l'anonymat affirme qu'elle ne boit pas assez d'eau.
On utilise cette eau que pour cuisiner, se laver ou faire le linge. On ne peut pas boire cette eau à cause du sel.
Moudoufa, lui, consomme certes l'eau salée, mais il s'inquiète quand même pour sa santé.
L'eau est très salée, même nous qui le consommons. Nous le savons très bien que cette eau est dangereuse. Parfois, il y a des poussières qui l'accompagnent. Alors dans ce cas, forcément tu vas dire, voilà, est-ce que cette eau est bonne pour la santé?
Une question à laquelle le médecin-chef du district sanitaire de Koki apporte une réponse négative. Docteur Elage Malik Diouf affirme que la consommation de cette eau peut avoir plusieurs conséquences sur la santé.
Déjà, le sel et la tension, ça va ensemble. Donc, la première conséquence, c'est l'augmentation de la pression artérielle et également les maladies dentaires. Parce que souvent, l'eau salée accompagne le calcaire, parce que c'est l'eau de forage local. Et il y a des lésions donc, dentaires, donc avec des pots de calcaire sur les dents et qui est le colère en marron. Mais également, il y a des maladies diarrhées également qui sont là parce que la qualité de l'eau n'est pas également bonne, parce que le filtrage n'est pas très bien traité.
Pour se désaltérer, certains comme Amadou Matarmboub sont obligés d'acheter à chaque fois de l'eau douce.
Dans les concessions, presque, si on fait une estimation, chaque concession dépense au moins 400 ou 600 francs par jour pour satisfaire la famille en eau potable. Donc ça fait une enveloppe très importante au détriment des populations rurales.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les vendeurs d'eau douce s'en sortent pas mal, comme l'explique Baba Fall.
Ouais, j'ai presque 7 ans.
Je vends de l'eau douce depuis 7 ans. Dieu merci, je gagne bien ma vie. Ça marche vraiment.
À Koki, les populations locales souffrent à cause de la mauvaise qualité de l'eau qui impacte de manière négative leur quotidien et leur santé. Même le sol fertile ne profite pratiquement pas aux populations qui ne peuvent pas faire du maraîchage à cause de la salinité de l'eau. Les autorités de leur côté soutiennent que la qualité de l'eau n'est pas altérée, mais les populations, quant à elles, se disent fatiguées et demandent de l'aide pour avoir de l'eau douce. À Koki, dans la région de Louga, au Sénégal, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, 7 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a finalement son premier gouvernement. L'équipe est composée de 66 membres, dont 5 vice-premiers ministres et 10 ministres d'État. Dans ce gouvernement de coalition, le FCC de l'ex-président Joseph Kabila détient 2/3 des portefeuilles grâce à sa majorité écrasante au Parlement. La composition du gouvernement, la taille de l'équipe, les chances de réussite de la coalition FCC, ses caches et ses priorités. Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Ici aux États-Unis, les perspectives de réélection du président Donald Trump l'année prochaine semblent se compliquer. Monsieur Trump continue de vanter une économie forte malgré les avertissements d'un certain nombre d'économistes concernant une possible récession en 2020, avertissement que le président américain trouve exagéré. Il doit maintenant relever les défis des primaires au sein de son propre parti républicain, notamment face à un ultra-conservateur, Joe Walsh, animateur radio et ancien membre du Congrès. Défi que Monsieur Trump a aussi minoré en ridiculisant ses adversaires potentiels. Quelles sont donc les chances de réélection du président? Élément de réponse dans ce reportage de Jim Malone, présenté par Irène Herman-Ungbo.
Lors du sommet du G7 en France, le président Donald Trump a évoqué une vision solitaire sur le commerce, la Russie et la lutte contre le changement climatique. Trump a également défendu ce que certains considèrent comme son approche chaotique du dossier du commerce avec la Chine.
C'est la façon dont je négocie. Cela a très bien fonctionné pour moi au fil des ans et cela fonctionne encore mieux pour le pays. Cela aurait dû être fait par d'autres, Bush, Clinton, cela aurait dû être fait. Et je le fais à présent.
Trump vante souvent la vigueur de l'économie américaine, comme ici, dans le New Hampshire.
Bien que nous avons été victimes de chasse aux sorcières et toutes les autres choses que nous avons dû traverser, nous avons pris les commandes du grand et beau navire et il est en train de changer de cap très rapidement.
Mais la guerre commerciale avec la Chine a fait des ravages et certains économistes mettent en garde contre une récession qui pourrait peut-être paralyser les chances de la réélection de M. Trump l'année prochaine. Une opportunité pour ses adversaires démocrates de s'attaquer à sa gestion de l'économie.
Cela touche moins le fondement de l'économie que la politique commerciale, la politique étrangère et la politique intérieure. Ce qui amène les gens à s'interroger sur la stabilité de cette administration.
Trump a également un adversaire issu de son propre parti, l'animateur radio et ancien représentant de l'Illinois au Congrès, Joe Walsh.
Je me présente parce qu'il est inapte. Quelqu'un doit intervenir et il doit y avoir une alternative. Le pays en a marre des crises de colère de ce type. C'est un enfant.
Walsh peut se révéler n'être rien de plus qu'une gêne mineure pour Trump, étant donné le soutien écrasant dont bénéficie le président chez les Républicains. Toutefois, un ralentissement économique l'année prochaine pourrait lui causer des problèmes politiques. Susan Page.
Nous n'avons jamais destitué un président, encore moins eu des doutes quant à sa réélection, surtout lors d'une reprise de l'économie, comme c'en est le cas. Nous n'avons jamais non plus réélu un président qui se présente en période de récession. C'est donc une réalité que la Maison-Blanche ne perd pas de vue.
Trump obtient généralement des électeurs des notes élevées sur l'économie. Mais un récent sondage d'Associated Press a révélé une inquiétude croissante quant au caractère du président.
Il y avait quelques points positifs sur l'économie et certaines politiques, mais les préoccupations générales concernant le caractère de ce président, sa façon de communiquer, sa tendance à diviser sur certaines questions pèsent, plus que les avantages qu'il tire de l'économie.
Are making America great again. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Désormais, je suis Eurobot.
Salut les amis, ici Roger Moutou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington DC, la capitale des USA. Restez branchés ce jeudi dans RF Show à 20h temps universel. Au programme, hommage à DJ Arafat. DJ Arafat a fait tomber les frontières du coupé décalé. On en parlera ce jeudi avec plusieurs invités de marque. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au plus 1-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous au plus 1-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.